Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. En avril 2025, j'aborde le savoir acquis par l'enseignement de la lecture, de l'écriture et de la poésie, et aussi partir à la recherche de la vérité ou d'une vérité dissimulée. Et grâce à des grands écrivains, voilà, grâce à Georges Bonnemaison, Quel que soit le chemin, c'est le titre de son livre, Quel que soit le chemin, il me ramène à toi. Grâce à Christian Lax, le grand Christian Lax, l'Université des Chèvres, à Camille Flammarion, présenté par Jacques Arnoux, à Christine Orban, la grande Christine Orban, Mademoiselle Spencer, à Michael Connelly, à qui c'est attendre, à Arthur Roger, jusqu'au bout de l'océan, à Claude Ardide, La fabrique du malheur, mais je le reporte le mois prochain. À la place, j'ai reçu, un peu tardivement, mais j'ai reçu La terreur violette de Pablo Ladame, qui me semble mieux convenir à cette thématique du savoir. Et puis je termine par un Sylvain Tesson exemplaire, Les piliers de la mer, intitulé Les piliers de la mer. Alors donc, je commence par le premier. Quel que soit le chemin, il me ramène à toi. C'est un recueil de poésie exemplaire de Bonnemaison, de Georges Bonnemaison, qui vient de remporter le prix, un grand prix, le prix de poésie, histoire et mémoire, 2024, aux éditions des Deux Rues. Ce recueil qui mêle prose, poétique et poème est un carnet de voyage du soldat de deuxième classe, Raphaël Zamit, qui est un muletier. Ça, c'est un peu particulier, justement. Muletier, 3e division d'infanterie algérienne, oui, il nous vient d'Algérie. Débarquement de Provence, campagne de libération en 1944, dont je vous fais lecture des trois premières pages pour vous faire comprendre pourquoi il a mérité ce grand prix de poésie. Printemps. Je l'ignorais, ma vie était désert. L'amour a surgi comme un fennec une nuit de sirocco. Je ne l'ai pas vu, sable au sein du sable. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas entendu. Ses pas effacés, sitôt tracés, je n'ai pas deviné son odeur dans les tiges jaunies de la chèbe. La veille, je l'avais peut-être rêvé, qui ne le fait pas, et au matin, il était là. L'amour m'a dévasté. D'un ancien moi, il n'y a plus que l'illusion d'une enveloppe, le souvenir de mon nom. Telle l'amu brunie d'une cigale camouflée sur le liège, et que l'on reconnaît pour cigale éteinte, mais promise à la lumière. L'amour m'a rendu plein. Je t'aime, donc je suis. Tout est toi. Lorsqu'assoiffé, je me penche à la fontaine dans l'eau qui coule. Je vois ton visage. J'entends ta parole. Je respire tes parfums. Au creux de mes mains, je m'abreuve de menthe et me nourris de miel. J'ai tourné le dos aux arides, j'ai suivi les lignes de mes mains s'adoucies, les cartes rebattues, j'ai marché vers la mer, le souffle solaire me poussait. Poème. Le pin maritime, sommet du sentier ardent, ombre et silence, je reprends le texte, avant oui, avant, mais il me semble que cet avant est si lointain. Et cependant, tout le monde me le dit, je n'ai pas 20 ans, ni même 19, comme le sergent recruteur tient à le savoir. Avant, j'étais bien incapable de chanter ce qu'on chante quand on a 17 ans et que tout n'est que lendemain. C'est quand Hélène qu'on répond, heureux perroquet, autour d'un feu de plage, au nom de l'oud et de la darbouka. Si par hasard l'oiseau saphir et qui vient d'où, je ne le sais, l'oiseau saphir à chaîne d'or et qui va où, je ne le sais, se faufiler dans ma forêt, je saisirai, je le sais bien, sa chaîne d'or pour l'attacher juste à mon cœur, je le sais bien. J'en suis sûr désormais. Mon amour n'est pas oiseau des bois, il est le simorgue qui a vu 3 fois l'embrasement du monde. Il est le Garuda éventreur de serpents, il est le vautour hépatophage des titans entravés, il est le roc ravissant d'une griffe, l'éléphant des savanes, rouge est sa couleur, flamme son plumage, d'un seul battement d'aile, il a fait de ma forêt bien raisonnée un mikado d'allumettes. Dans son cri, un incendie, tout est parti. Et quand son œil m'a scruté, je me suis vu avec jusqu'aux os purifié. Poème. Seul le son du vent, tronc noirci, tapis de cendres, les premiers bourgeons. Me voici 2 fois né, mon nouveau premier souffle est pour toi, et ce d'après jusqu'au dernier. Alors, ce recueil de poésie est aussi donc une très belle histoire d'amour entre lui, Raphaël, et la belle du Sud. Alors, les familles s'entendent plus ou moins. Ils ont fini par dire ils sont l'un à l'autre. Séparons-les à cause de la guerre. Les tiens, les miens, d'accord sur ce point, te voilà bien gardé par ta famille, contrainte de rester fille, me voici sur le sentier de la guerre, sommé de devenir un homme, une année sans nous voir, et si toi, moi et notre amour survivent, alors peut-être. Poème, vague en furie, coup de vent, remous, récif, la barque sourit. Je ne connais pas les voies de l'amour et ne sais où elles passent. Tout ce que je sais est là. Quel que soit le chemin, il me ramène à toi. Quelle que soit sa direction, chaque pas me rapproche de toi. Je sais que peu me croiront, mais c'est ma façon d'aimer. Alors, c'est à commander aux éditions des Deux Rues, prix public 12 € pour cette merveille. Ce n'est pas trop cher demander. Il faut vraiment acquérir cette merveille en vous adressant aux éditions des Deux Rues, http://editions.com. Voilà. www.editionsdesdeuxrues.com. Voilà, pour avoir ce magnifique récit de poésie qui va vous engager aussi. Alors, le deuxième livre s'intitule « L'université des chèvres ». C'est de Christian Lax, édité par Futuropolis, un grand éditeur de BD remarquable. Et c'est vrai que Christian Lax, est un merveilleux dessinateur. Il est de Lyon et j'ai pu le rencontrer à Bourg-en-Bresse à la soirée littéraire et musicale organisée par les Amis de la Chapelle des Jésuites, en particulier par Pierrette Charnay, qui est la fille de Marius Charnay, fondateur de cette association. C'était le 22 mars. Cet ouvrage est très très beau, magnifique. Il raconte en BD, mais avec des paysages vraiment extraordinaires. Il raconte l'aventure de deux hommes, le premier Fortuné Chabert et le deuxième Sanjard. Ce sont deux instituteurs itinérants. Le premier depuis la France, de Lubeil en Durance, alors que le deuxième qui vit en Afghanistan, c'est Sanjard, on le découvrira en troisième partie. Donc Fortuné profite de l'hiver et de la neige pour aller de village en village afin d'enseigner aux enfants la lecture, l'écriture et les chiffres. Il est aussi colporteur de livres, transportant ainsi son savoir aux enfants qui l'attendent. Et il progresse, ces enfants. Ils savent lire, et donc il leur distribue des livres. Et lorsque le poids de livres est trop fort, il utilise une mule qui a des sacoches dans lesquelles il peut trouver des livres. Tout cela se déroule au 19e siècle, et on arrive jusqu'à nos jours. Mais Fortuné et Sanjard, après de 2 siècles et plus, et plus de 5000 kilomètres de distance, ils devront renoncer l'un à l'autre à ce nomadisme enseignant qu'on appelle l'Université des Chèvres, d'où le titre de ce magnifique livre, l'Université des Chèvres. Oui, ils vont devoir renoncer parce qu'on ne veut plus d'eux. Ils doivent partir ailleurs. Les paysans ont tendance à vouloir garder leurs enfants pour eux-mêmes et ne pas comprendre cette réalité de ce nomadisme enseignant. qui fait pourtant des merveilles. Le lien entre les deux est le nom d'une jeune américaine, descendante de fortunés, qui s'appelle Arizona Flores et qui est journaliste au Phoenix Post. Et c'est vrai que Fortuné est obligé de partir à Marseille, d'embarquer dans un bateau jusqu'à Honfleur et de partir en Amérique, d'aller même chez les Indiens américains, où il va séjourner, se marier, avoir un fils qui va le représenter par la suite. Donc, il y aura... Alors, on a tout ce parcours illustré dans ce livre, cet ouvrage, L'Université des Chèvres, et on arrive à Arizona Flores, journaliste, et qui sera obligé un petit peu par son chef d'aller en Afghanistan. Et là, en Afghanistan, eh bien, elle va rencontrer Sanjar et même devenir l'amant de Sanjar. Et c'est ce qui, cette histoire d'amour va lier à la fois donc, l'Occident et l'Afghanistan, qui doivent affronter les talibans. Voilà. Donc là aussi, l'école, surtout pour les filles, ne sera pas acceptée. Donc il va falloir lutter pour quand même faire l'école jusqu'au moment, voilà, bon, vous découvrirez la suite de l'histoire. Christian Lax nous livre ici un plaidoyer lumineux pour une école sanctuarisée qui émancipe et qui libère. Il y a donc non seulement de belles photos, mais il y a quelques citations. J'en ai retenu que deux, mais il y en a d'autres. On ne peut faire front qu'avec des mots. Et la deuxième, c'est l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et c'est Nelson Mandela qui avait dit ça. Voilà. Je passe à la troisième livre, Camille, qui est une présentation de Camille Flammarion, Le pèlerin des étoiles, et c'est présenté par Jacques Arnoux, c'est aux éditions du Cerf. Alors c'est vrai que Camille Flammarion est née à Montigny-le-Roi, en Haute-Marne, en 1842. Donc on est encore, là aussi, au XIXe siècle. Il est mort à Juvisy-sur-Orge en 1925. Nous sommes en 2025, cela fait donc 100 ans. C'est un astronome populaire et passionné, vulgarisateur de génie, investigateur infatigable. Il se fit pèlerin des étoiles, mais aussi un arpenteur des âmes et un chercheur de l'esprit, avec un grand de l'esprit. Incroyablement libre, mêlant contemplation et recherche. Pour qui l'univers n'était que l'apparence d'une force vitale. C'est lui qui le dit. Il y a une force vitale qui dirige tout, qui existe bien. L'effet d'une pensée intelligente, la manifestation d'une âme universelle. Voici donc, par ce livre, Camille Flammarion, Le pèlerin des étoiles de Jacques Arnoux au Cerf. Voici donc la captivante destinée d'un pèlerin moderne qui va être critiqué, hein, très critiqué, mais il avait un credo tout personnel, et celui-ci disait qu'il avait foi, une foi en l'immortalité de l'âme, et que Dieu ne se confond pas avec le tout, mais Dieu est présent en tout et en toute chose, en tout être et en toute chose. Voici donc magnifiquement recréée la vie de ce populaire astronome, édité aux éditions Flammarion. Il y a édité au Cerf, mais ses œuvres, ses grandes œuvres, ont été éditées aux éditions Flammarion parce que son frère Ernest Flammarion venait de créer les éditions Flammarion pour justement pouvoir éditer les œuvres de son frère Camille. Voilà, donc on va faire une pause musicale en écoutant de la trompette, une œuvre de Michel Legrand, la trompette, interprétée par Romain Leleu. Thank you. la belle musique. Je reviens un petit peu sur Camille Flammarion parce que je voulais vous dire aussi que c'était un autodidacte. Élevé dans la religion catholique par sa mère, il s'en éloigne peu à peu. Il poursuit à sa guise, sa propre recherche spirituelle, convaincu que l'être avec un grand E, l'être universel, ne peut qu'être juste. Et la création infinie ne peut être que bonne. Tout gravite vers le progrès, vers le meilleur. Nous devons vivre en pleine espérance. Son esprit de scientifique s'insurge contre l'obscurantisme et l'intolérance auxquels il se heurte. En septembre 1856, il entre comme apprenti dans l'atelier d'un graveur ciseleur. Et le soir, il suit les cours de l'Association Polytechnique, un enseignement populaire et gratuit dont il sait tirer le plus grand profit. Il apprend l'anglais, se met au dessin et prépare le baccalauréat. Toutefois, il consacre aux sciences ses principaux efforts et ses nuits. La géologie y occupe une large place, mais l'astronomie y reçoit toute l'attention de l'adolescent, convaincu après tant de sages et de penseurs que la nature est un livre sublime, offert à l'étude incessante, obstinée, laborieuse des humains. Fasciné par les mouvements spirites de son époque, il puisait dans ce territoire immense et attrayant le matériau pour assouvir son insatiable curiosité. Aucun sujet ne lui fit jamais baisser les bras. Les canaux de Mars à l'hypothèse d'extraterrestres, en passant par la survie de l'âme après la mort, d'une fluide vivante et puissante dont Jacques Arnoux nous conte l'histoire de ce scientifique et de ce savant. Voilà ce que je voulais vous dire. Avant de passer au quatrième livre, roman, qui est un roman, qui est Mademoiselle Spencer de Christine Orban, paru aux éditions Albin Michel. C'est une diffusion Gilles Paris que je remercie pour avoir reçu ce témoignage. Alors Christine Orban dit que la vérité, quand je vous disais que j'allais parler de vérité, de contre-vérité, là la vérité est un conte cruel. Et Christine Orban, en lui prêtant sa plume passionnée et passionnante, pour comprendre de l'intérieur ces non-dits, il y a des non-dits dans une vie de quelqu'un, elle ressuscite la voix d'une femme qui ne demandait qu'à être aimée, sacrifiée sur l'autel de la monarchie anglaise. Lady Di, c'est elle, cette mademoiselle Spencer, finira malgré tout par se libérer de ses chaînes. Tout dans la vie de Diana Spencer attire le récit par ses paradoxes. La transformation de Mademoiselle Spencer en princesse de Galles. Oui, elle va devenir une princesse de Galles. Puis en icône, car elle va être charitable vis-à-vis de certains qui ont le sida, et puis des plus pauvres, donc elle va devenir une icône, ses failles, être entre clarté et obscurité, car l'image que l'on voit, que l'on veut avoir d'elle, l'image que l'on veut avoir d'elle, et contre laquelle elle luttera en vain, parce que tout, sa vie commence avec l'abandon de sa mère, se poursuit sous le signe d'un conte de fées, mais s'achève en tragédie. En apparence, rien de la courte existence de Diana ne nous échappe, puisque ses moindres gestes ont été photographiés, ses moments d'intimité volés, ses portraits posés tout ou presque, a donc été photographié jusqu'à sa mort. Et pourtant, tout échappe, car les images ne sont que des clichés. Elles masquent l'essentiel qui était vraiment Diana, sa vie intime. Elle veut rétablir la vérité sur son couple, sur sa vie. Elle finira par se confier un peu maladroitement devant les caméras de la BBC. Mais grâce à l'immense talent de Christine Orban qui nous fait vibrer, nous touchons à cette vérité et à ce destin fulgurant d'une héroïne tragique d'aujourd'hui. Voilà. Et je passe au cinquième livre, À qui sait attendre ? C'est de Michael Connelly et ça vient de paraître chez Calman Levy Noir. Le grand Michael Connelly revient avec cette nouvelle aventure, mettant en scène René Ballard à la tête de l'unité des affaires non résolues. Voilà, elle est axée maintenant là-dessus, l'unité des affaires non résolues. Elle retrouve la trace, grâce à de l'ADN, d'un violeur en série qui a terrorisé Los Angeles. Deux décennies plus tôt, avant de disparaître, disparu dans la nature. Los Angeles, vous savez que c'est la ville mythique de Michael Connelly. Il connaît très bien cette ville et il en parle très bien aussi. Mais très vite, René Ballard va se heurter à des secrets et à des obstacles juridiques qui la forcent à demander son aide à Harry Bosch. Vous savez qu'il est à la retraite, mais il est quand même toujours présent, pas très loin. Donc elle va pouvoir faire appel à lui, et il sera là aussi très présent dans ses affaires. Et cette fois, elle pourra compter aussi sur une autre alliée, Maddy, qui est la fille de Harry Bosch, et qui rejoint par cette histoire l'unité et dévoile des documents surprenants concernant l'affaire la plus emblématique du siècle dernier, celle du Dahlia noir. Oui, voilà, à qui sait attendre ? Eh bien, nous retrouvons l'histoire du Dahlia noir. Car nous allons peut-être, et vous aussi, lecteurs, vous allez peut-être enfin connaître la vérité du Dahlia noir. Ça, je vous laisserai découvrir. Alors que la première enquête devient dangereuse, car il y a bien un tueur encore présent. Ballard, Harry et Maddy et toute l'équipe, parce que vous savez que René Ballard est entouré d'une équipe de volontaires, des gens qui ont un autre travail et qui donnent des heures volontaires pour former cette équipe très efficace, que Michael Connelly met en scène dans ce livre, dont une personne, une jeune femme, qui s'appelle Colleen Hatteras, qui va prendre des risques à ses dépens, parce qu'elle colle un peu trop à ce que c'est René Ballard et Maddy, et elle est pourtant volontaire, mais elle voudrait en faire plus, et travailler un peu en solo. Elle va prendre des risques à ses dépens, et vous verrez que malheureusement, il lui arrivera quelque chose de terrible. Donc, sur la deuxième affaire. Oui, tous ne seront pas de trop pour retrouver des criminels que les familles des victimes attendent depuis longtemps déjà de voir enfin arrêter et savoir ce qui s'est réellement passé. Voilà. Et je passe à un autre livre étonnant aussi, un sixième livre qui s'intitule « Jusqu'au bout de l'océan ». C'est de Arthur Roger et c'est les éditions Gros Caillou qui ont édité ce livre. Et je remercie encore Gilles Paris, car c'est par lui que j'ai pu découvrir cet Arthur Roger aux éditions Gros Caillou. Arthur Roger est un homme qui aime Lyon et les terreaux en particulier, où réside l'un de ses personnages. Il est passé maître dans l'art d'écrire des intrigues captivantes. Ses personnages profondément attachants entraînent le lecteur dans des récits haletants, aux rebondissements imprévisibles. Ici, dans ce roman, dans ce nouveau roman, Jusqu'au bout de l'océan, il s'agit d'une véritable odyssée. Mais c'est un auteur qui croit au miracle et à la providence et à l'amour indéfectible, l'union de deux âmes qui se découvrent et fusionnent à tout jamais. C'est le cas de Alexandre et de Samia. On a l'impression qu'ils ont vraiment vécu, qu'ils se sont vraiment aimés. C'est aussi l'histoire de deux frères, à la fois proches et ennemis, Eric et Alexandre. Si le premier semble tout réussir, il a l'argent, une fortune, une femme, des enfants. Il vit à Paris, où se trouvent ses entreprises, mais a un catamaran arrimé sur le port. Dans leur jeunesse, ils ont appris à naviguer. Le deuxième, Alexandre, est un fugitif traqué qui a fait de la prison 7 ans pour son frère, ce qui va donner un rebondissement pour la suite. Avec Samia, il va donc vivre une des plus bouleversantes aventures en pleine mer. 3 destinées qui se heurtent. Alexandre, Samia qui est une rebelle endurcie par les épreuves, et Verchère, un troisième personnage qu'on va peu à peu redécouvrir. Un flic qui n'a plus rien à perdre, mais qui sait des choses, ce qui sera bien utile pour la suite de cette aventure. Et l'océan pour seul refuge, depuis le port où ils embarquent secrètement sur le catamaran de Eric, qui, comme par hasard, était prêt à une expédition avec des provisions à bord de ce catamaran. Donc, ils vont pouvoir traverser la Méditerranée, aller jusqu'à Gibraltar et au bout de l'océan, une plongée en pleine mer jusqu'au bout de l'océan. Une quête effrénée pour trouver la liberté. Et en plus, ils vont embarquer un enfant qui braille, mais qu'ils vont sauver de la mort et qui vont embarquer sur leur bateau, qu'ils vont prendre sur leur bateau. Et il sera adopté par Samia. Donc voilà une très très belle aventure pleine d'amour et de mer pour trouver la liberté. Et je passe donc au septième livre, La Terreur Violette. Avec La Terreur Violette de Pablo Ladamé aux éditions L'Observatoire, qui est pour moi un très bel éditeur que je connaissais un petit peu déjà, qui édite des histoires qui vont à contre-sens du progrès ou de notre histoire telle qu'on veut bien le voir. Merci à Gilles Paris pour cette diffusion. Parce que avec La Terreur Violette, je reviens sur la thématique du début de l'instruction, du savoir. À 20 ans, Pablo Ladamé, étudiant à Sciences Po, Paris, livre un témoignage saisissant sur les mutations profondes qui bouleverse son école. L'école de Sciences Po, Paris, qui est une grande école, avec des filières en province, jusqu'à Poitiers et ailleurs, qu'on retrouve. Au fil d'une enquête minutieuse, il dévoile l'émergence d'un système de justice parallèle, orchestré par le pôle violet, d'où le titre La Terreur Violette, le pôle violet, qui est une organisation étudiante autoconstituée, qui via une plateforme, on retrouve l'idée d'une plateforme numérique qui existe, mais qui est utilisée ici, qui tient une place centrale, une plateforme numérique de signalement d'où vient le danger. C'est arroger cette plateforme numérique du signalement, c'est arroger un droit de regard sur la vie du campus, en particulier sur les hommes qu'il dénigre. Cette immersion dans l'un des établissements les plus prestigieux de l'enseignement supérieur en France, qui doit former normalement des élites, révèle les tensions extrêmes qui traversent notre société. À Sciences Po, comme au temps du Far West, on pend d'abord, on juge ensuite. Et comment garantir la liberté d'expression tout en luttant contre les discriminations. C'est un document vraiment la terreur violette de Pablo Ladame, comment ils ont détruit Sciences Po, édité par l'Observatoire. C'est vraiment un document exceptionnel qui résonne comme un cri d'alarme. Je vous lis que deux pages pour vous faire ressentir le véritable scandale qui justifierait à lui seul l'existence de cet ouvrage et la complicité coupable de la direction de Sciences Po. Là où les universités ont toujours pris le parti de l'ordre et de la justice, Sciences Po se range lâchement du côté des fauteurs de troubles, des harceleurs et des calomniateurs. L'institution ne se contente pas de laisser faire ce qui est déjà indigne en soi, mais n'hésite pas à souffler sur les braises. Naguère, confiné à la sphère militante et étudiante, le néo-féminisme, voilà. On ne parle plus du féminisme, mais du néo-féminisme s'est redoutablement propagé au sein même de l'administration, par le biais notamment de la cellule d'enquête interne préalable, sorte de police interne des VSS, c'est-à-dire des violences sexistes et sexuelles. Cet organe présidé par une conseillère d'État, constitué exclusivement de femmes, s'est vu confier l'immense responsabilité de diligenter des enquêtes afin de vérifier la matérialité d'éventuels faits de violences sexistes et sexuelles commis par des étudiants masculins. En amont de toute procédure disciplinaire ou judiciaire, et au cours de l'année 2022, donc ce n'est pas très très vieux, la cellule d'enquête interne préalable a ainsi initié plus de 50 enquêtes et procédé à plus de 150 auditions. Donc je vous laisse découvrir la suite de ce témoignage exceptionnel, la terreur violette de Pablo Ladame, comment ils ont détruit Sciences Po. J'ai découvert à Sciences Po l'influence grandissante et dangereuse, dit-il, Pablo Ladame, qui a été étudiant pendant 3 ans et qui a été éjecté, et l'intransigeance n'ont pas tardé à instaurer un climat de terreur dans la communauté étudiante. Un document exceptionnel, je vous le dis. Alors, j'aborde maintenant un 8e livre qui est aussi vraiment... très bien, une sorte de révélation que je n'attendais pas, mais qui a été annoncée et que j'ai pu recevoir. J'en suis très heureux. Ça s'intitule « Les piliers de la mer ». C'est de Sylvain Tesson et ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. que je remercie, car ce sont eux-là qui me l'ont fait parvenir. Une remarquable édition, oui, avec de très belles photos où on voit les deux personnages tout en haut d'un steak. Et une carte qui situe les 106 steaks qu'ils ont affrontés à travers le monde, qu'ils ont avec son ami Dulac, un escaladeur du lac, un escaladeur hors pair. Et ils ont donc escaladé, approché par bateau ou à la nage, ces steaks. C'est un terme anglais. Ce qu'on appelle stack, ce sont les piliers de la mer, détachés de la côte, autour du monde. Ces sentinelles de roches qui se dressent par milliers devant les falaises côtières qui, elles, se creusent sous l'action de la mer. Il y a, par rapport à Étretat et à d'autres endroits, on voit ce pilier accroché à la côte et puis tout à coup, ce qui faisait le pont entre ce pilier et la côte, eh bien, s'effondre. Et il ne reste que le pilier qui, elle, se creuse sous l'action de la mer, des vagues fortes et du vent, et a tendance à reculer. On dit même que les falaises côtières ont tendance à reculer face à la mer. Et malgré un accident, parce que Sylvain Tesson est tombé d'un toit et il s'est fait très très mal, et contre l'avis des médecins qui disaient qu'il ne pourrait plus rien faire, eh bien, il peut se balancer dans les vagues, grimper ses aiguilles. Voilà, ce sont des aiguilles qui, elles seules, résistent au milieu des oiseaux et au cours des dizaines d'années d'aventure. Voilà, ça va leur demander une dizaine d'années d'aventure pour affronter justement toutes ces aiguilles. Je vous l'ai dit qu'il y avait une carte aussi, hein, une très belle carte qui montre où se situent tous ces piliers de la terre qu'ils ont affrontés, qu'il y en avait 106, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors c'est vrai que donc ces aiguilles qui elles seules résistent au milieu des oiseaux au cours des dizaines d'années d'aventure et vivre à l'écart ou revivre, car on a l'impression qu'ils revivent à l'écart, car les stacks qu'il définit longuement tout au long de ses pages, avec tout un savoir littéraire qu'il met à la disposition de ses définitions. Par exemple, dans différents endroits, en Écosse, par exemple, voilà, c'est le mot que je cherchais, on y va en Écosse et il décrit ces aiguilles. Tout au long de ces pages emblématiques, car il ressemble, car ces piliers de la mer ressemblent aux dandys, aux rebelles humains. C'est une façon de résister. Oui, qui êtes-vous, tour de la haute mer? Peut-être le dernier refuge. Tout bouge autour de nous. Vous ne reculez pas. Et on va donc, je l'ai dit, faire un tour du monde. On va de l'Aiguille d'Étretat en France, on va en Europe, au Canada, au Mexique, en Afrique du Sud, au Vietnam, aux Philippines, au Tasmanie, en Nouvelle-Zélande et en Terre de Feu, la Terre de Feu. Voilà vraiment Sylvain Tesson avec les Piliers de la mer qui vient de paraître chez Albin Michel, nous propose un tour du monde extraordinaire. Je vous le confirme. Alors, je vous dis, on va s'arrêter là. Et je vous dis, ben, au mois prochain, quand même, si vous voulez, le voulez bien. Au revoir. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.